Europe Soir,
le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. À 18h20, je recevrai une femme flic qui a choisi de quitter la police. Agnès Naudin a travaillé à la brigade de protection de la famille. Elle vient d'écrire un livre qui pointe les problèmes de management au sein de l'institution et les lourdeurs également de l'administration. Lourdeurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques et qui l'ont conduit d'ailleurs à changer de vie. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra bien sûr sur ce déconfinement progressif qui redonne espoir aux Français. Mais attention à ne pas s'emballer, hein. Les chiffres restent mauvais, le président le dit lui-même, des freins d'urgence sont prévus. Ce sera un déconfinement sous surveillance et puis on parlera bien sûr aussi de cette campagne de vaccination qui s'accélère. C'est la grande gagnante du confinement, la bicyclette. L'an dernier, l'usage du vélo a bondi de 25% en France. Une hausse spectaculaire qui marque un vrai tournant quant à la place du vélo dans nos vies et une petite révolution au pays de la voiture. Ce sera le thème de notre débat à partir de 19h20. Mais avant cela, l'info, le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h.
La vaccination ouverte à tous les adultes majeurs dès le 15 juin, le gouvernement confirme le calendrier vaccinal.
Dès demain, samedi 1er mai, les adultes souffrant d'obésité et ceux présentant des comorbidités pourront également se faire vacciner. Ils n'auront aucun justificatif à fournir, une simple déclaration sur l'honneur suffira. Toutes les explications dès le début de ce journal.
Les premiers cas de variant indien signalés en France, 5 cas ont été identifiés dans le Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Bouches-du-Rhône. Les patients vont bien et sont placés à l'isolement.
L'épidémie continue de flamber en Hongrie. Mais les autorités poursuivent le déconfinement, nous dira notre envoyé spécial à Budapest.
À Rambouillet, l'hommage national à Stéphanie Monfermé, la policière assassinée. Elle représentait une certaine façon de vivre la France, dit le Premier ministre.
L'Europe s'attaque à Apple, accusé d'abus de position dominante. Bruxelles soupçonne le géant américain de promouvoir sa propre application au détriment notamment de Spotify et de Deezer.
Alerte pour Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG est forfait pour le match contre Lens. Demain, simple mesure de précaution, dit le club, alors que ce profile le match retour contre Manchester City mardi. Et puis la Bourse de Paris termine en baisse de 0,53% à 6269 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Une nouvelle journée perturbée demain dans le sud.
Oui, principalement dans la vallée du Rhône et en Provence. C'est là que les pluies seront les plus fortes demain, surtout l'après-midi. Ailleurs, nous avons un temps instable avec des éclaircies, des averses, quelques rayons de soleil de temps en temps. Les températures, elles restent bien en dessous des normales de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus de 15 millions de personnes ont donc reçu au moins une injection. Le cap des 20 millions de primo-vaccinés sera probablement tenu à la mi-mai et le gouvernement passe donc à la vitesse supérieure.
Et oui, puisque dès demain, les adultes souffrant d'obésité et les personnes avec des comorbidités vont pouvoir se faire vacciner. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir.
Alors quel est le profil de ces patients ?
Alors il s'agit des personnes qui souffrent de maladies chroniques. On pense aux pathologies cardiovasculaires, l'obésité, vous l'avez dit, les diabètes de type 1 et 2, les insuffisants cardiaques, respiratoires ou les malades atteints de cancer. Ça représente près de 4 millions de personnes en France. Ces derniers jours, des médecins et des associations mettaient la pression sur le gouvernement afin qu'il ouvre largement les vannes de la vaccination. Et comme de plus en plus de créneaux sont vacants dans de nombreux centres, le gouvernement a donc choisi d'élargir à ses publics la vaccination. A noter aussi que l'exécutif va plus loin dans les Outre-mer. À Mayotte, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 16 ans sans facteur de risque. La vaccination est aussi possible pour tous les habitants de plus de 18 ans. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ainsi qu'à Wallis et Futuna.
Victor, est-ce que l'on peut rappeler le calendrier qui est désormais figé ?
Alors, pour faire simple, si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez vous faire vacciner dès aujourd'hui et aucun critère ne vous sera demandé. Si vous êtes soignant, peu importe votre âge, là aussi, vous pouvez recevoir une injection dès maintenant. À partir de demain, donc, toutes les personnes majeures qui ont des maladies chroniques auront accès à la vaccination. Et à partir du 15 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans y auront droit. Enfin, plus aucune restriction à partir du 15 juin prochain, comme l'a dit le président de la République. Autrement dit, tous les Français qui souhaiteront se faire vacciner pourront le faire à partir de cette date.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Aux Antilles, on n'attendra pas le 15 juin. La vaccination est désormais ouverte à tous les adultes sans restriction. En Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin, les autorités veulent améliorer la couverture vaccinale, encore trop faible à leurs yeux. 10% de la population a été vaccinée à ce jour.
La vaccination, le dépistage et la prévention, pas seulement les gestes barrières. Le ministre de la Santé met en garde lui aussi contre tout relâchement dans le comportement individuel. Il y a aussi la question l'apparition des variants. Au moins 5 cas du variant indien ont été signalés en France.
Oui, ils ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine et dans le département des Bouches-du-Rhône. Ce variant est soupçonné d'être plus contagieux que les autres souches et d'être responsable d'une vague épidémique en Inde. Terrible, hein ? Nicolas Feldman, les autorités sanitaires françaises ont, semble-t-il, pris le problème à bras-de-corps.
Oui, et l'enjeu, c'est donc de limiter sa propagation. Alors, depuis la semaine dernière, tous les voyageurs en provenance d'Inde doivent respecter une quarantaine de 10 jours. Si des cas positifs sont repérés, ils sont séquencés. Cela veut dire que l'on recherche la présence ou non de ce fameux variant indien. Alors, 5 premiers cas ont déjà été détectés dans le sud-ouest. Tous leurs contacts ont été tracés et pour l'instant, pas de cluster. C'est ce que confirmait ce matin Benoît Elboud, le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, au micro de Stéphane Place.
On ne peut jamais être sûr que le rétro-tracing a vu tout le monde. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que s'il y avait un cluster et beaucoup de cas, on le repérait par le dispositif de dépistage. Tous les éléments à notre disposition nous permettent de dire que ce variant spécifique venant d'Inde est tout aussi bien contrôlé que le variant brésilien ou sud-africain.
Alors la question maintenant, c'est de savoir si ce variant indien est-il plus dangereux que les autres ? Est-il plus contagieux ? Rien ne permet encore de l'affirmer. L'OMS le classe pour le moment dans la catégorie des variants dits d'intérêt. Cela veut dire qu'il doit être surveillé. Ce que craignent en revanche les spécialistes, eh bien c'est une efficacité moindre face aux vaccins, comme c'est le cas aujourd'hui pour les variants sud-africains et brésiliens.
Nicolas Feldman, la France s'inquiète et tente d'empêcher la reprise de l'épidémie et la multiplication des variants. On vient de l'entendre avec Nicolas Feldman. En Hongrie, en revanche, les autorités veulent aller vite.
Oui, ce pays est pourtant celui où la mortalité liée au Covid est la plus élevée du monde, plus de 2700 morts par million d'habitants, davantage que l'Inde ou le Brésil, dont nous avons beaucoup parlé. Cela n'empêche pas pourtant le gouvernement de Viktor Orban de déconfiner progressivement. Jean-Sébastien Soldani, vous êtes notre envoyé spécial à Budapest. Comment est-ce possible ?
Eh bien parce que le Premier ministre veut aller vite et contre l'avis des autorités européennes, il vaccine avec les sérums russes et chinois. Sa communication est axée là-dessus, si bien que personne n'est conscient de la situation épidémique, surtout pas sur les terrasses des cafés récemment rouvertes.
Nous sommes champions du monde. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas vacciné, mais être dehors en terrasse, c'était nécessaire maintenant.
C'est étonnant d'avoir pris cette décision car le virus circule encore. Mais c'est le choix du gouvernement et on vit dans un monde nouveau, c'est génial.
40% de la population a reçu au moins une dose, c'est jugé suffisant par les autorités, pas forcément par Janos Slavik, l'un des infectiologues les plus écoutés du pays.
En Hongrie, le déconfinement est lié au taux de vaccination. Dans beaucoup d'autres pays, le passeport vaccinal n'est donné que 15 jours après la deuxième dose. Là, ça a peut-être été un peu vite.
Le pays distribue un passeport vaccinal dès la première injection sans attendre la fabrication d'anticorps, une situation qui pourrait amener une quatrième vague, d'autant que les vaccins russes et chinois sont jugés moins efficaces.
Jean-Sébastien Soleil, envoyé spécial d'Europe 1 en Hongrie. Aux États-Unis, 100 millions d'Américains sont désormais entièrement vaccinés après avoir reçu les deux doses nécessaires. Et pour eux, eh bien, cela signifie notamment qu'ils peuvent désormais retirer le masque lorsqu'ils sont dehors. Et puis, signe de ce retour à la normale progressif, toujours aux États-Unis, à Los Angeles, Disneyland va rouvrir ses portes après 412 jours de fermeture.
À Rambouillet, Jean Castex a donc rendu un hommage au nom de la nation à Stéphanie Monfermé, cette policière assassinée par un terroriste vendredi dernier. Dans son discours, le Premier ministre a salué une femme qui représentait une certaine façon de vivre en France. Reportage Hélène Terzian.
C'est à quelques mètres seulement du commissariat où Stéphanie Monfermé a été assassinée que le Premier ministre prononce un discours solennel. Près du portrait en noir et blanc de la fonctionnaire de police, Jean Castex s'exprime face à ses deux filles, son mari et ses collègues policiers.
Votre collègue travaillait pour cette police qui est le rempart des citoyens contre la violence, la délinquance et le terrorisme. Votre collègue a été assassinée parce qu'elle servait son pays. Parce qu'elle était au service de la France.
Le Premier ministre remet la Légion d'honneur à titre posthume à cette agente administrative qui a officié pendant près de 30 ans dans son commissariat. Une cérémonie suivie sur un grand écran par de nombreux habitants.
C'était très important de venir et de soutenir la famille, soutenir tous nos policiers. Elle était là pour les Français, on devait être là pour elle aussi.
C'était une femme comme vous et moi qui faisait son métier. C'était très digne, c'était très beau. J'ai apprécié le discours du Premier ministre qui a tout dit. Maintenant, derrière, il faut agir pour que ça ne se reproduise plus.
Dans son hommage, le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à lutter contre les actes terroristes, notamment face au passage à l'acte d'individus isolés et, comme semble révéler l'enquête, au profil de l'assassin de Stéphanie Monfermé.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Et cet attentat terroriste inquiète la communauté musulmane qui craint d'être une nouvelle fois stigmatisée.
Et à Rennes, le centre culturel musulman a été la cible de tags racistes pour la deuxième fois en moins de 3 semaines. Les inscriptions ont été effacées par les services de la ville. Le parquet a ouvert une enquête.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et Bruxelles qui s'attaque à Apple pour abus de position dominante.
Et puis Kylian Mbappé ne jouera pas contre Lens demain. Faut-il s'en inquiéter avant le retour contre Manchester City?
A tout de suite. 18h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre et c'est un bras de fer qu'engage l'Europe vis-à-vis d'Apple.
Ah oui, Bruxelles attaque le géant américain pour abus de position dominante. Au départ, c'est Spotify qui a porté plainte. La plateforme musicale reproche à Apple d'utiliser son App Store, sorte de magasin virtuel, de manière déloyale, Isabelle Horry.
Voilà, si vous avez envie d'écouter de la musique sur un iPhone ou un iPad, vous devez passer par l'App Store pour choisir votre app Spotify, Deezer, Qobuz. Ensuite, vous pouvez payer un abonnement. Sauf que voilà, il y a 2 ans, Spotify a porté plainte devant la Commission européenne. Apple lui facturait 30% de frais par abonnement. Aujourd'hui, Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a donné raison à l'entreprise suédoise.
Pour atteindre celles et ceux qui utilisent Apple, les fournisseurs de musique en streaming sont obligés de passer par l'Apple Store et d'accepter les règles imposées par Apple. Apple est en situation de monopole.
En plus, Apple interdit aux plateformes de musique de signaler qu'on peut s'abonner moins cher via leur site internet et le géant américain met en avant sa propre plateforme de streaming à des prix compétitifs. Apple va devoir répondre à la commission, il se défend déjà en rappelant que grâce à lui, Spotify est devenu le plus grand service de streaming en Europe. Reste qu'entre-temps, Spotify a tout simplement renoncé à vendre ses abonnements premium via l'application pour iPhone.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. C'est l'emblème de la Côte d'Ivoire, les éléphants sont menacés de disparition.
Leur nombre a baissé de moitié en 30 ans dans le pays. La déforestation et le braconnage sont en train d'avoir raison des pachydermes. Ils étaient 1100 en 1990, ils sont moins de 500 aujourd'hui.
C'est bien triste. On est à moins de 3 mois des Jeux Olympiques et Tokyo est prête à tout pour maintenir l'événement.
Y compris à interdire la présence de spectateurs sur les sites. C'est déjà le cas pour les spectateurs étrangers. Le comité d'organisation va plus loin et se dit prêt à organiser les Jeux à huis clos. La décision sera prise en juin. La capitale japonaise est placée en état d'urgence face à la recrudescence de cas de Covid.
Le foot, Marseille-Strasbourg, c'est ce soir en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. C'est un match important. Le PSG, lui, jouera demain contre Lens et ce sera sans Kylian Mbappé.
Eh oui, l'attaquant souffre du mollet. Simple contracture, dit le club. On se souvient qu'il avait grimacé mercredi soir lors de sa demi-finale contre Manchester City. Il traînait un peu la patte pour tout dire. Cyril Lemorinerie, il y aura justement un match retour mardi contre les Citizens. Est-ce qu'il faut, oui ou non, s'inquiéter pour lui?
Quand il y a une blessure, forcément, on s'inquiète. Kylian Mbappé a disparu des radars en deuxième mi-temps lors du match contre Manchester. Le Français, on l'a vu, a tenté à plusieurs reprises de s'étirer en se tenant la jambe. Le TGV s'est transformé en RER et il n'avait plus de vitesse. Voilà. Donc, il a déjà effectivement ressenti des douleurs au mollet. Sa blessure a été confirmée en conférence de presse cet après-midi par l'entraîneur parisien Maurizio Pochettino, qui restait évasif sur sa participation possible donc en Ligue des Champions. Écoutez-le.
Kylian a une gêne au mollet droit qui, on espère, ne s'est pas aggravée. On espère le récupérer au plus vite. C'est sûr que Kylian est un joueur important et quand un joueur de ce calibre est absent, ça a toujours un impact. Et on a d'autres joueurs de qualité qui doivent nous permettre de nous imposer.
Mais un médecin du sport m'a confirmé que ce n'était pas une blessure grave. Là, je vais vous rassurer, une contracture, ce n'est pas une déchirure. Il faut juste reposer le muscle et pratiquer des massages. Si tout va bien, Kylian Mbappé devrait donc être opérationnel mardi. Quant à l'autre star, Neymar, qui n'a plus marqué depuis le 31 janvier et qui a connu il y a quelques semaines des soucis aux adducteurs, eh bien le Brésilien pourrait jouer demain pour retrouver la confiance.
Qu'on espère le retour du TGV pour mardi, évidemment.
Enfin, cela dit, un RER, ça va encore quand même assez vite. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué à le voir filer comme une fusée. Il ne va pas aussi vite que Cyril Lemorinerie quand il commande, je peux vous le dire, du service des sports d'Europe 1. Angers et le Paris FC interdit de transfert cet été. Sanction prononcée par la FIFA, les Angevins qui évoluent en Ligue 1 et les Parisiens qui sont en Ligue 2 sont accusés d'avoir enfreint la réglementation sur les transferts. Les deux clubs vont faire appel.
Noël.
Merci Christophe Lamarre, on vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Anissa Haddadi, vous nous en parliez dès hier, hein. Il faudra être très vigilant, prudence demain dans le sud.
Oui, parce que depuis plusieurs jours nous avons en effet une dépression méditerranéenne qui apporte pas mal de pluie dans le sud. C'est demain que la journée sera la plus mouvementée. Alors demain, des Pyrénées jusqu'à la vallée du Rhône et tout le long de la Méditerranée, les pluies seront soutenues dans l'après-midi avec des orages localement forts. La neige va faire son retour aussi à partir de 1400 mètres d'altitude dans les Alpes et sur les hauts plateaux de l'Aubrac. Ces pluies, elles vont se calmer samedi soir, donc demain soir. Elles vont s'évacuer complètement dimanche, mais attention, dans le sud, après la pluie, c'est le vent, des vents forts qui vont prendre le relais. D'ailleurs, demain, la tramontane se lève dans le Languedoc. Sur le reste du pays, ben, nous avons, comme aujourd'hui, un ciel partagé entre nuages, éclaircies et averses. C'est dans le nord-est des Hauts-de-France, à l'Alsace, en région parisienne et en Bourgogne. C'est dans ces régions-là que le temps restera sec demain, avec quelques petites éclaircies. Les températures toujours fraîches, moins 1 à 14 degrés du nord au sud demain matin. Dans l'après-midi, on aura 11 degrés à Aurillac, 13 à Lyon et Clermont-Ferrand, 16 à Nice, Marseille et Paris, 17 pour Metz et 20 la maximale pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, je reçois Agnès Naudin qui viendra nous parler de son expérience au sein de la Brigade territoriale de protection de la famille, expérience douloureuse. Elle nous dira pourquoi, à tout de suite. Il est 18h19 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Je reçois ce soir une policière pas comme les autres. Bonsoir Agnès Naudin.
Bonsoir.
Vous êtes capitaine de police à la Brigade territoriale de la protection de la famille. Vous êtes actuellement en disponibilité, c'est-à-dire que vous n'exercez pas pour l'instant. C'est un choix personnel. Vous allez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi vous avez fait ce choix. Alors même si vous avez quitté la police, j'imagine que vous avez vécu douloureusement l'assassinat de Stéphanie Monfermé à Rambouillet. Un hommage national lui était rendu aujourd'hui. Stéphanie, ça aurait pu être vous finalement, ce terrorisme aveugle qui frappe la police.
Bah, Stéphanie, ou comme tous les autres, d'ailleurs tous les hommes et les femmes qui rentrent, vont, viennent sur le terrain, pas sur le terrain, dans les commissariats, on n'est jamais à l'abri de ce genre de situation-là.
C'est quelque chose auquel on pense quand on est en service, par exemple, qu'il peut arriver un fou qui vous égorge ?
Non, à l'époque, moi, j'ai à l'époque comme si j'étais partie. Ça fait que 2 ans que je suis partie, mais j'ai jamais vu ça ou je l'ai jamais vécu. En tout cas, j'y ai jamais été confrontée et du coup, j'ai jamais eu cette peur-là. J'ai eu de la chance d'ailleurs de pas l'avoir, je pense.
Ouais. Alors en 2018, Agnès Naudin, vous avez publié Affaires de famille. En 2019, Affaires d'ado. Et cette fois, vous publiez Enfance en danger. C'est aux éditions Robert Laffont. Une femme flic raconte. Alors Enfance en danger, ce sont des récits d'affaires sur lesquelles vous avez travaillé. En l'occurrence, 3 histoires douloureuses, comme toutes celles que vous avez eu à traiter, j'imagine, dans votre carrière. L'histoire d'un bébé qui meurt étouffé chez sa nourrice, une fratrie maltraitée et un adolescent qui affirme avoir été violé par un camarade de classe. Vous nous racontez de façon très détaillée comment à chaque fois vous procédez pour comprendre ce qu'il s'est passé, pour auditionner les protagonistes, pour démêler le vrai du faux. Mais ce livre, ce ne sont pas juste des histoires, entre guillemets. Vous y faites passer un message très fort et très déstabilisant pour nous qui ne connaissons pas finalement les rouages de la police, des services sociaux ou même de l'éducation nationale, parce qu'on comprend qu'à travers chacune de ces histoires, qu'à chaque fois, à un moment, il y a eu une défaillance et vous n'hésitez pas à le dire et à l'écrire. Hein.
Ben c'est d'ailleurs pour ça que je les ai choisies, ces histoires-là, parce que chacune d'entre elles est un exemple d'un dysfonctionnement qui peut y avoir soit dans nos services, soit dans nos rapports en tant que policiers avec les autres institutions. Une défaillance qui peut y avoir aussi au niveau de la magistrature, dans leur communication entre magistrats, de dossiers dont ils ne se parlent pas et pourtant certains en ont connaissance, mais ne remontent pas les infos pour que les infractions puissent être poursuivies. Et puis aussi également, pour moi, mais ça je l'ai tout de suite vu quand je suis rentrée dans la brigade des mineurs, c'est la manière dont fonctionne l'aide sociale à l'enfance, qui est propre à chaque département, puisque c'est une institution, entre guillemets, départementale, et où j'ai toujours pu constater qu'il y avait énormément de bonne volonté, de gens très bienveillants qui travaillaient là-dedans, que ce soit les éducateurs ou autres, mais qu'ils avaient des moyens qui étaient mis à leur disposition, mais de manière différente en fonction du département et donc des budgets qu'on va y allouer. Et voilà, et toute cette combinaison de choses entraîne dans les histoires des dysfonctionnements qui entraînent d'autres dysfonctionnements et qui finalement, ce sont les institutions qui sont censées protéger les enfants, mais qui ou ne les protègent pas ou parfois même les mettent en danger. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces histoires-là, c'était pour illustrer cette analyse-là.
Mais vous avez souvent été confronté à ces aberrations, à des choses qui auraient dû remonter, qui auraient dû être transmises, qui auraient dû être faites différemment et qui auraient pu éviter des drames ?
Alors, heureusement, non. Maintenant, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et que je me dis que si ces histoires existent, j'ai eu la chance d'en avoir eu connaissance, mais que je sais qu'il y en a dont on n'a pas connaissance. Et en fait, ce livre-là, c'était aussi, et notamment dans la dernière histoire sur l'école, de montrer et de pointer, pas forcément des responsabilités, mais des exemples qui permettent aux professionnels de se rendre compte de l'importance qu'ils ont dans cette remontée de la chaîne de l'information, que bien souvent, ils en ont conscience, mais qu'ils vont prendre en compte d'autres éléments pour transmettre une information ou ne pas la transmettre, et qu'au final, parfois on en oublie qu'il y a potentiellement un enfant en danger et qu'on va prendre le risque de ne pas faire remonter cette information parce qu'on va la juger peu crédible en fonction du discernement qu'on va avoir. Mais en fait, c'est pas nous qui prenons le risque, on le prend pour l'enfant qui, lui, n'a rien demandé en fait.
Oui, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ces décisions, c'est juste des oublis, des lenteurs. En fait, ce livre, il est à mettre entre toutes les mains justement de ces institutions dont vous dénoncez les lourdeurs, les défaillances.
Oui, alors il n'y a pas, il y a la peur aussi, je crois souvent. On se dit la peur de mal faire, la peur de dire quelque chose qui ne serait pas vrai, la peur de déranger. Voilà, par exemple, dernièrement, j'avais toujours en rapport avec l'école, parce que ça, c'est quelque chose qui remonte souvent, le fait que les directeurs d'école n'osent pas rapporter des propos que les enfants ont tenus à une infirmière, à un professeur, à une maîtresse ou autre, parce que ça va discréditer l'école dans laquelle ils sont, et que ça, il y en a plein qui n'aiment pas trop ça, en particulier dans le privé, souvent. Et il y a des professeurs, et j'en connais une, qui m'a raconté qu'elle avait reçu des confidences d'une petite fille, qu'elle a essayé de faire remonter cette information-là auprès de l'école, et que finalement, ça lui est retombé dessus. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parle des bonnes âmes et des gens qui sont bienveillants et qui ont envie de faire ce qu'il faut, mais que bien souvent, ils en sont empêchés, voilà, pour des considérations qui semblent effectivement... complètement incohérente avec le sujet dont il est question.
Alors effectivement, vous parlez de l'école, vous parlez également des nounous. Je déconseille d'ailleurs à tous les parents à la recherche d'une nounou de lire votre livre, parce qu'on découvre des choses terrifiantes hein, sur l'obtention des agréments, par exemple pour les assistantes maternelles, les contrôles, les rappels à l'ordre qui ne sont pas suivis d'effet. Vous êtes assez dur, notamment avec la PMI, la protection maternelle et infantile. Dans le cadre de la mort du petit garçon dont vous parlez dans votre livre, vous dites la PMI est au moins aussi responsable que la nounou. C'est terrible, ça.
C'est terrible, oui. Enfin, je ne sais pas si c'est terrible ou pas, mais
c'est vrai.
C'est pour ça que j'ai choisi cette affaire-là. C'est parce que la nourrice reste effectivement... Bon, c'est inhumaine. S'il y a un facteur humain qui rentre en jeu, etc., etc., ça, on ne peut pas, entre guillemets, y échapper. Mais à partir du moment où on fait partie d'une institution qui est justement... dont l'essence même, c'est de protéger les enfants, et qui ne le fait pas, ou qui, par dysfonctionnement du système, même, parce que là, c'était clairement ça, c'est dysfonctionnement interne, entraîne quelque part ou permet l'apparition de ce phénomène-là, je pense qu'il y a de quoi se poser une question.
Oui, parce que cette nounou, elle a été contrôlée. On lui a dit, il ne faut pas faire dormir les bébés sur le ventre. Elle l'a fait quand même, malgré les rappels à l'ordre. Et puis, finalement, un jour, il y a un petit bébé qui est décédé, alors qu'il se trouvait sur le ventre, sur un tapis, dans le salon, un peu loin du regard de sa nounou, hein, c'est ça?
Exactement. Et ce qui a été difficile dans cette affaire-là, c'était justement de montrer que, malgré les rappels à l'ordre qui avaient été faits à cette nourrice, qu'entre le dernier appel à l'ordre et le moment où cet enfant est mort, il s'est passé quasiment 18 mois sans qu'il y ait aucun contrôle. Donc, potentiellement, on savait qu'elle était dangereuse, mais on ne l'a pas contrôlée parce que le système de la PMI est tel que l'infirmière était débordée, est tel que la chef de service était enceinte, donc elle n'a pas suivi son dossier. Donc, en fait, Voilà, c'est structurel en fait, quelque part.
Vous dites, Agnès Naudin, que vous avez choisi la police en croyant qu'on pouvait parler, trouver des solutions, faire avancer les choses. Finalement, c'est l'inverse. C'est violent hein, comme constat.
Bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors non, pas que. C'est vrai que quand je dis c'est l'inverse, c'est pas tout le temps l'inverse, parce qu'effectivement, ça permet aussi d'aider et de, voilà, de faire ce pourquoi on est rentré dans cette institution. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'on peut voir aussi et qui sont dysfonctionnantes et sur lesquelles on n'a pas forcément de prise et où ça mêle en fait tellement de personnes différentes que si tout le monde ne se met pas autour de la table pour repenser l'aide sociale à l'enfance, la façon dont ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait remonter l'information, comment fonctionne la cellule de recueil des informations préoccupantes, tous les gens qui travaillent dans ces institutions-là, forcément il y a de la déperdition et si on ne le fait pas de manière commune, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut échapper à ces problèmes-là.
Écoutez, on espère que votre message sera entendu. En tout cas, c'est un message nécessaire. Merci beaucoup, Agnès Naudin.
Je vous en prie, merci.
Je rappelle le titre de votre livre, « Enfance en danger, une femme flic raconte ». C'est aux éditions Robert Laffont. Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et vos grandes voix du vendredi. À tout de suite. 18h30, le rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Le gouvernement précise le calendrier de vaccination. Dès le 15 mai, les adultes sans facteur de risque pourront se faire vacciner. À partir du 15 juin, ce sera autour des 18-49 ans. Les personnes obèses et tous les adultes présentant des comorbidités telles que le diabète, l'insuffisance rénale ou les problèmes cardiaques pourront le faire dès demain, samedi 1er mai. Il n'y aura aucun justificatif à fournir. Une simple déclaration sur l'honneur suffira. Les premiers cas de variant indien signalés en France, 5 cas ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine et dans les Bouches-du-Rhône. Les patients sont placés à l'isolement. À Rambouillet, l'hommage national à Stéphanie Monfermé, la policière assassinée la semaine dernière. Pour le Premier ministre qui présidait la cérémonie, elle représentait une certaine façon de vivre la France. Enfin, l'Europe s'attaque à Apple, accusée d'abus de position dominante. Bruxelles soupçonne le géant américain de promouvoir sa propre application au détriment notamment de Spotify et Deezer.
Merci Christophe. Lamarre, l'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, pluie et fraîcheur au programme pour demain, 1er mai.
Oui, c'est un mois de mai qui commence en effet avec pas mal de pluie dans le couloir rhodanien et puis en Provence. Les pluies vont s'accentuer demain après-midi. La journée va commencer calmement, mais alors vraiment dans l'après-midi, on attend des pluies soutenues assez importantes, souvent accompagnées de coups de tonnerre. Dans le sud-ouest des Pyrénées, jusqu'à l'Auvergne, là nous aurons des averses fréquentes demain matin. Plus au nord, le temps est un petit peu plus sec. Et puis en fait, c'est dans le nord-est, des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace, de Paris jusqu'à Strasbourg, sur le grand quart nord-est, c'est là que la journée sera la plus agréable puisque le temps sera sec, on aura quelques passages nuageux, mais il y aura aussi de belles éclaircies. Les températures, elles sont fraîches, avec des petites gelées en ce 1er mai, on aura moins 1 Charleville-Mézières et jusqu'à 14 degrés dans le sud. C'est stationnaire l'après-midi, toujours en dessous des normales, avec 11 à 21 degrés, 11 pour Aurillac, 13 à Lyon, 16 à Nice et Paris, 18 pour Bastia et 20 pour Ajaccio. Et alors, sans vous dévoiler ce qui va se passer la semaine prochaine, je peux vous dire qu'en mai aussi, ne te découvre pas d'un film. Ah, on va changer les dictons.
Très bien. Merci Anissa. On vous retrouve à 19h pour un nouveau point météo complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h33, on ouvre le débat de nos grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Louis Alter, bonsoir. Louis Alter, journaliste politique à Marianne.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Pascal Fogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir et merci à tous les trois de accompagné ce soir. Alors depuis hier, on est donc fixé sur le fameux plan de déconfinement en 4 étapes qui va progressivement nous permettre de retrouver une vie un peu plus normale, en tout cas au moins d'avoir un horizon un peu plus dégagé. On a entendu des témoignages sur Europe 1, aussi bien des Français qui se voient déjà en terrasse que des restaurateurs, des commerçants, des cinémas. Il y a une certaine euphorie, mais est-ce qu'on a raison de s'emballer? Plus de 26 000 contaminations hier, 5 800 patients encore en réanimation et des médecins très inquiets, des épidémiologistes aussi, à l'image de Mircea Sofona qui était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Le risque avec une reprise trop rapide des activités sociales, c'est que la diminution soit vraiment très lente en termes d'incidence et donc d'hospitalisation, d'admission en soins critiques, et donc finalement que la baisse prenne des semaines. Cette reprise, elle s'accompagne d'un enthousiasme collectif qui est tout à fait compréhensible. Le risque, c'est que l'épidémie ne baisse pas suffisamment. Dans le pire des cas, elle pourrait même remonter.
Alors c'est nécessaire, bien sûr, d'offrir un horizon aux Français, mais au vu des chiffres sanitaires, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas un peu précipité les choses, Pascal Fogam ?
C'est l'arbitrage que l'on connaît depuis plus d'un an maintenant, entre sanitaire et économique. Selon les moments, l'exécutif est obligé de faire des choix, critiqués aujourd'hui par le monde médical qui juge le déconfinement prématuré, irresponsable pour certains, infondé. Et puis vous avez en face le monde économique qui se réjouit d'avoir enfin de la visibilité, des étapes clairement annoncées, affichées, qui permettent aux différents protagonistes de se préparer. Donc oui, c'est sans doute compliqué. On est sur un fil, comme on l'est depuis des mois. Le pari, il est toujours le même, même si Emmanuel Macron n'aime pas ce mot. C'est de miser sur la montée en puissance de la vaccination et une immunité collective qui, progressivement, nous permettra de reprendre une vie normale.
Oui, mais en décembre dernier, l'exécutif avait fixé comme condition de déconfinement la fameuse barre des 5000 cas par jour qui n'a finalement jamais été atteinte. Aujourd'hui, on est 5 fois au-dessus de cette jauge. Qu'est-ce qui a changé depuis décembre dans la tête du président Bruno Jeudy ?
Ce qui a changé, deux choses. C'est vrai que nous sommes à un niveau de contamination et même de taux d'incidence qui pousserait certains pays à confiner à ce niveau-là. C'est tout le paradoxe. Ce qui a changé par rapport au mois de novembre, lorsque le président déconfine, peut-être un peu trop tôt d'ailleurs à l'époque, puisque nous n'atteindrons jamais la barre des 5000 cas de contamination. De la même manière, nous n'atteindrons jamais les 2500. On est descendu sous les 3000 patients en réa, mais jamais à 2500. Nous sommes descendus au maximum début janvier à 2600. Ce qui a changé, c'est que il y a la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le tempo et le rythme de vaccination permet de dire, en tous les cas au président de la République, que les 20 millions seront atteints au 15 mai, les 30 millions probablement à la mi-juin, sauf vraiment catastrophe en termes d'approvisionnement. Et on voit bien que tout est mis en œuvre pour essayer d'accélérer cette campagne vaccinale, même si, évidemment, ce ne sera jamais assez rapide. Les Français, on voit, sont pressés d'être vaccinés. Et sans doute qu'à l'été, le pari présidentiel sera tenu. Donc ça, c'est un des éléments qui fait qu'il ne veut plus être sur les mêmes critères pour fixer le déconfinement qu'il avait retenu à l'hiver 2020. Mais les nouveaux critères sont différents. Et puis je pense qu'il fait la balance coût social, bénéfice sanitaire, qui fait qu'aujourd'hui, en faisant la part des choses entre ces deux aspects de l'équation, ça lui permet de penser que même à un niveau assez élevé de taux d'incidence de 300 en moyenne sur l'ensemble de la France, c'est pas la peine d'infliger un confinement plus long aux Français, et que avec ce calendrier assez lent, assez prudent, je trouve, il est possible peut-être de sortir. En gros, il y a un mois à tenir encore très dur dans les hôpitaux, c'est le calcul que fait le président de la République, et ensuite on pourra normalement sortir de cette situation compliquée, avec une inconnue dans cette équation, c'est qu'en ne vaccinant pas suffisamment vite,
on va revenir
on s'expose au risque d'apparition de nouveaux variants. Si on prend l'expérience israélienne, ils ont vacciné très très vite pour éviter qu'un variant vienne mettre à bas leur stratégie sanitaire. Et nous, le problème, c'est que c'est un peu la même stratégie qu'on voudrait employer, sauf qu'on n'est pas en mesure de vacciner plus rapidement.
On va revenir parce que ça commence quand même à bouger. Vous parliez d'un calendrier prudent, Bruno Jeudy. Emmanuel Macron, il a prévenu, il pourra actionner des freins d'urgence. Donc concrètement, à tout moment, on pourra annuler les allègements de restrictions, peut-être à chaque étape du calendrier. Enfin, c'est ce qu'on comprend, en tout cas dans les territoires particulièrement touchés. C'est un filet de sécurité, finalement, le Gosalter, qui va permettre au président d'ajuster au cas par cas, sans avoir pour autant à se dédire, sans revenir sur sa stratégie.
Oui, c'est mais important, c'est tout ça. Pareil, sauf que le problème, c'est que les gens ont quand même entendu qu'on allait être libérés. Progressivement, certes, prudemment, certes, par étapes, certes, mais ce qu'on a entendu quand même dans cette interview, c'est ce qu'on voulait tous entendre quelque part, qui est que les restrictions allaient prendre progressivement fin. Et Emmanuel Macron est allé jusqu'à donner quelque part une échéance de sortie presque totale de crise en disant que quasiment toutes les restrictions seraient levées le 30 juin. C'est dans pas si longtemps, à l'échelle de cette épidémie qui a commencé vraiment en février-mars 2020, de dire que dans deux mois, en fait, on aura retrouvé notre vie pas plus normale, mais presque normale, en fait, dans son sens le plus entier. Donc, je pense qu'il sera rattrapé quand même par un effet de déception s'il doit dire dans certains territoires, et vu ce que disent les épidémiologistes, ça devrait arriver, s'il devait activer ces fameuses mesures de freinage dans certains territoires, d'autant qu'on ne sait pas exactement en quoi elles consisteront.
Alors, il dit qu'il y a quand même trois critères qui sont fixés pour ces freins
exactement,
de sécurité.
Ça permet d'objectiver
voilà,
les choses.
Des services de réanimation bientôt saturés, un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100 000 habitants, une augmentation brutale de ce taux. Mais alors, si ça devait se produire, le gouvernement il devrait contacter les préfets, les collectivités, pour bloquer effectivement les réouvertures. Ce serait une forme de territorialisation, finalement, qui ne dit pas son nom, Pascal Pogam.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une adaptation aux situations locales, pour être au plus près et permettre de réagir le plus vite possible. Territorialisation, je vais y arriver, qui ne dit pas son nom, alors que les annonces, pour le coup, sont à échelle nationale, alors qu'on s'attendait à des annonces plus différenciées jusque-là. Le fait de communiquer comme il l'a fait, comme le président l'a fait ce matin dans la presse régionale, et d'appliquer des règles à tout le monde, a pu surprendre. Et ces critères d'ajustement locaux, je pense, donnent la souplesse nécessaire dans le cas d'une apparition de nouveaux variants. On voit que 5 cas, je crois, oui, de variants indiens ont été identifiés en France. Il faut se préparer à l'apparition de ces variants-là. Mais en tout cas, on a ces soupapes-là qui permettent d'ajuster le dispositif en cas de besoin.
Mais ces freins d'urgence sanitaire, ça existe notamment en Allemagne, sauf qu'ils sont activés beaucoup plus rapidement que chez nous. Dès que le taux d'incidence est supérieur à 100 pour 3 jours d'affilée, nous c'est 400, l'Italie déconfine à 150, l'Espagne à 125. Ouvrir avec un tel niveau de circulation du virus, c'est quand même un risque que connaît, qu'assume le chef de l'État, Bruno
Absolument,
Jeudi.
Il l'assume de plus en plus ouvertement et cette interview le prouve. On a fait un choix, on a fait un changement de doctrine radical à la fin de l'année dernière lorsque le président a décidé d'abandonner justement ces critères de déconfinement. Le critère que vous rappeliez de 5000 cas de contamination et le critère du nombre de patients en lit de réanimation. Au fond, le changement de doctrine, il intervient à ce moment-là. Et depuis, on a fait le choix. Alors, d'abord le président de la République, mais j'allais dire, quand on regarde les sondages, une partie des Français, sans le dire comme ça, sans même le réaliser, ont accepté le fait d'avoir une espèce de système de couvre-feu, de confinement à la française, qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus souple, et qui fait qu'on a vécu avec un haut niveau, finalement, de personnes, de taux d'incidence, de cas de contamination, et le refus, finalement, d'être dans un yo-yo à l'italienne, par exemple, qui a confiné, déconfiné à plusieurs reprises. C'est une autre stratégie.
Mais
par
les médecins disent qu'on ne survivra pas, qu'ils ne survivront pas à une quatrième vague.
C'est une stratégie qui ne plaît pas aux médecins, vous avez raison, puisqu'on voit bien, alors là, pour le coup, depuis le 29 janvier, il y a eu une rupture avec un fossé qui n'a cessé de s'agrandir entre le président et les médecins et professeurs et scientifiques qui le conseillent ou pas, ou qu'on voit dans les médias jour après jour, en gros, expliquer que c'est une stratégie qui est trop dangereuse et qui fait qu'il y a le risque de faire imploser le système hospitalier. C'est ça le grand risque dans cette affaire. À 6000 personnes en réanimation, c'est très très élevé.
Ils sont dans leur rôle, les médecins évidemment, Louis Alter, de nous dire ça.
Oui, bien sûr. Après, là, on parle d'épidémiologistes, de gens qui sont en service de réanimation, donc qui gèrent la saturation au quotidien. Je ne suis pas sûr qu'un psychiatre, par exemple, plaiderait pour que le confinement se perpétue. Vous voyez, il y a différents types de médecins, et puis il y a différents types de mots. Et je pense qu'Emmanuel Macron, depuis l'automne dernier, je dirais, et en fait a voulu sortir de la pensée unique épidémiologiste, c'est-à-dire de diriger la politique du pays uniquement en regardant les courbes de saturation en réanimation, qui sont très importantes, bien sûr, mais il a sans aucun doute des remontées, mais on en a tous, on les a documentées d'ailleurs en tant que journaliste, des remontées de signaux faibles des ravages que fait cette épidémie en termes psychiatriques, en termes économiques, en termes sociaux, en termes de violence. Je pense qu'il en tient compte maintenant, beaucoup plus qu'il y a un an, quand un confinement très strict pouvait tenir pendant 3 mois parce qu'on était sous un effet de sidération, et que c'est le sens du risque qu'il a voulu prendre. Je suis étonné par contre qu'il ne sait pas, que Macron ne soit pas emparé d'une sorte de symbole, c'est très symbolique, mais d'un symbole de sortie de crise, qui est le sujet du port du masque en extérieur. Parce qu'il y a même des épidémiologistes qui expliquent aujourd'hui que
ça ne sert rien dehors. Ouais.
Voilà, en fait, aucune étude n'a montré pour l'instant qu'on se contaminait beaucoup dehors. Alors, je ne parle pas des cas où il y a des foules, où on est tous en terrasse à l'extérieur, mais c'est quand même un sujet qui est en train de monter dans le débat public, sur lesquels, effectivement, les épidémiologistes sont divisés. et qui coûte pas cher politiquement. C'est-à-dire que dire on va enlever le masque, sauf dans les cas où on est tous massés les uns sur les autres, et ben ça pourrait être rien que symboliquement, rien que se voir, voir nos visages en fait dans la rue, ça donne quand même une idée de ce qu'est la lumière au bout du tunnel. Et ce n'est pas très risqué, visiblement. Et Macron n'en a pas dit un mot dans sa longue interview à la presse régionale, donc il ne s'est pas encore emparé du sujet. Peut-être que ça va remonter à l'Élysée un de ces jours.
Il a dit beaucoup d'autres choses, on va y revenir dans un tout petit instant. Ensemble, les grandes voix, on va notamment parler, évidemment, de la vaccination, puisque Bruno Jeudy commençait à l'évoquer. C'est vraiment la clé de cette sortie de crise. À tout de suite. 18h46, suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1. On continue de parler de cette sortie de crise, ou en tout cas de ce déconfinement par étapes annoncé hier par Emmanuel Macron. Toujours avec moi, Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, et Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Alors, le ministre de la Santé a annoncé ce matin que la vaccination allait s'élargir dès demain. Le Premier ministre avait déjà évoqué le cas des adultes obèses. Et bien, cette fois, 4 millions de Français fragiles, majeurs, sont désormais éligibles à la vaccination.
L'obésité est la première maladie chronique ou le premier facteur de risque en dehors de l'âge qui expose aux formes graves. Mais nous ouvrons évidemment la vaccination également aux gens qui se présentent des comorbidités comme de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale, cardiaque ou des cancers. Nous élargissons la vaccination à quelques 4 millions de Français fragiles.
Le ministre de la Santé chez nos confrères de France Info ce matin, alors ouvrir la vaccination aux personnes fragiles. Il était temps, Pascal Pogam.
Oui, il était temps. Comme vous le disiez, la vaccination, c'est vraiment la clé de voûte de tout le dispositif, de tout le raisonnement de l'exécutif. De ce point de vue-là, le fait qu'on sente bien que l'objectif des 20 millions de personnes vaccinées le 15 mai, 30 millions le 30 juin, cet objectif-là soit à portée de main, en tout cas, c'est ce que montrent les chiffres aujourd'hui. C'est ça la grande bonne nouvelle pour l'exécutif. C'est ce qui valide les choix et cette volonté d'ouvrir progressivement dans le mois qui vient.
D'ouvrir à des personnes, par exemple, qui ont de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale, qui ont des cancers, des apnées du sommeil même. Ouais.
C'était essentiel et je crois au-delà, l'horizon qui est donné au mois de juin avec la possibilité de se faire vacciner à partir de 18 ans, là aussi, Louis parlait de symbole tout à l'heure à propos du masque, ça je crois que c'est un symbole très très important aussi. On a vu la réaction autour de nous quand on a appris qu'aux États-Unis, cette vaccination était rendue possible pour tous les adultes au-delà de 18 ans il y a quelques semaines. Ça faisait, pour nous en France qui étions en plein confinement, c'était quelque chose de très dur à entendre. Et bien ce genre de perspective, c'est ce qui nous permet de nous projeter dans du positif enfin. Donc oui, la vaccination est un élément essentiel de ce point de vue-là.
Et alors l'info de l'après-midi, c'est que l'on n'aura pas besoin d'ordonnance pour prouver qu'on a une comorbidité. Ça veut dire que l'accès au vaccin, il se fera sur le régime de la déclaration, sur la base de la confiance. N'importe qui pourra dire j'ai des problèmes cardiaques ou je suis traité pour un cancer. Est-ce que ça ne risque pas de créer un appel d'air, Bruno Jeudy, qui est peut-être souhaitable d'ailleurs hein?
Ah mais je crois que le président de la République, dans la lignée de ce qu'il... De son interview dans la presse quotidienne régionale, veut absolument tout faire pour accélérer le rythme de la campagne vaccinale. Il pense que ça ne va pas assez vite encore aujourd'hui. À l'Élysée, il s'inquiète un petit peu de la quinzaine qui arrive avec des jours fériés qui risquent de ralentir aussi parce qu'on sait qu'on vaccine moins le dimanche, qu'on vaccine moins les jours fériés,
Mais ça veut dire qu'en fait, on ouvre à tout le monde sans le dire clairement.
En tous les cas, c'est élargir au maximum, continuer à respecter les critères d'âge, parce qu'ils restent quand même sur cette doctrine-là, parce que les critères d'âge ont montré de l'efficacité en ayant commencé par les plus anciens, en ayant commencé par ceux qui sont dans les EHPAD, on a quand même réduit le risque d'avoir encore plus, d'emboliser encore un peu plus les services de réa. Ça fonctionne, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont sous cette double pression, à la fois de finir de vacciner les plus de 75 ans, il y en a encore quand même pas mal qui sont pas vaccinés, et puis la pression des plus jeunes, c'est-à-dire j'allais dire les moins de 55 ans, moins de 50 ans, qui veulent se faire vacciner, on le voit bien, qui essaient par tous les moyens, et après tout pourquoi pas, même si aujourd'hui ils ne sont pas éligibles, de se faire vacciner. Donc il y a cette double pression qui met l'exécutif à l'épreuve, parce que les gens veulent se faire vacciner. Et moi je crois que la question de l'AstraZeneca, à mon avis, va plutôt se dissiper. C'est-à-dire, les gens vont vouloir se faire...
Même avec AstraZeneca. Oui, alors justement, Olivier Véran, il a indiqué qu'il avait saisi la Haute Autorité de Santé pour étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires, quel que soit leur entourage de se faire vacciner à l'AstraZeneca en leur expliquant les risques et en leur faisant signer une décharge. Est-ce que laisser la liberté du choix comme ça aux Français, ce serait une bonne idée, sachant que le vaccin AstraZeneca aujourd'hui n'est plus administré aux moins de 55 ans en France au vu d'éventuels risques de thrombose. C'est quand même une bonne idée de leur dire, bah, écoutez, vous voulez y aller, vous nous signez une décharge et ça sera bon.
C'est basé sur la responsabilité individuelle. Après, ça ne rehaussera pas forcément la réputation d'AstraZeneca, parce que l'image que confirme cette déclaration, c'est de dire bah, il y a le vaccin qui est quand même, bon, il est bien, mais il est quand même un peu moins bien que tous les autres. Donc ça c'est bon, pour l'image du vaccin, je ne sais pas si c'est bon. En revanche, sur l'élargissement de la vaccination, c'est vrai que l'annonce d'Olivier Véran puis celle d'Emmanuel Macron sur la date d'ouverture de la vaccination à tous les adultes, ça aura le mérite de clarifier des règles qui étaient devenues incompréhensibles, en fait, parce que autant au début, le calendrier était clair, on avait bien compris que personne ne pouvait se faire vacciner à part les résidents des EHPAD. Ensuite, c'était des limites d'âge inférieures. Ensuite, c'était des professions prioritaires, mais du coup, pourquoi telle profession était prioritaire plutôt que celle-là? Ensuite, c'était les plus de 55 ans, mais alors uniquement avec l'AstraZeneca. Bref,
on a quand même... C'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à s'y retrouver.
On a empilé les règles parce que il y avait une volonté d'avoir un effet d'annonce tous les jours, voire toutes les heures. Sur
même
le
nous,
côté,
ici,
regardez...
Europe 1, on faisait des papiers explicatifs. Voilà, alors redites-nous plus de 55 ans.
Pour expliquer auprès à vos auditeurs la pédagogie du gouvernement sur les nouveaux critères grâce auxquels on peut ou pas ne se faire vacciner, c'était devenu compliqué. D'autant, et c'était une des polémiques de cette semaine, qu'il y a des doses qui ne trouvent pas preneur dans certains centres de vaccination et que des médecins cherchent des patients à qui administrer leur dose. Donc, ça a le mérite de simplifier un peu les critères et d'envoyer un message général qui est de, bah voilà, si vraiment vous avez envie d'aller vous faire vacciner, allez vous faire vacciner et on ne va pas mettre un frein à ceux qui sont en danger, plus vulnérables que d'autres et qui en plus sont très motivés pour avoir une dose à laquelle ils n'ont pas accès jusqu'ici. Après, évidemment, tout ça est tributaire de deux choses. Le calendrier des livraisons, dont on a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines et qui a été problématique au niveau européen. Et puis, l'intendance, la logistique.
Mais
quand
c'est
même
ça, est-ce
un
qu'il y a
péché
un risque
français.
De cohue? Alors, comment on va faire?
Oui, alors il y a ça.
Si tout le monde
exactement.
Y va demain,
est-ce qu'on arrive à flécher les populations sur le bon centre de vaccination? Est-ce que le centre de vaccination d'à côté qui a trop de doses, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui fait la queue devant? Voilà, cette espèce de péché français de la logistique, de l'intendance qu'on méprise un peu. On a vu qu'il ne fallait pas le mépriser, surtout quand on connaît des crises telles que celle-là. Et ce sera un des défis quand de plus en plus de personnes
se présenteront
devant des centres de vaccination.
On suivra ça, évidemment. Je voudrais qu'on revienne aussi sur l'annonce concernant la création d'un pass sanitaire qui permettra à partir du mois de juin d'accéder aux lieux où se brassent les foules, comme les stades, les festivals, les foires qui devraient rouvrir. Il sera aussi requis pour voyager vers l'outre-mer et vers l'étranger. Pass qui permettra de prouver qu'on est complètement vacciné ou qu'on a un test PCR négatif de moins de 48 heures ou même qu'on a été testé positif au virus au moins deux mois plus tôt. Alors il y a Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, qui était l'invité de Mathieu Béliard ce matin sur Europe 1. Écoutez, il a donné des précisions.
Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les événements, les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Donc on anticipe un certain nombre de réouvertures et je pense que tout le monde a envie de retourner dans des concerts, tout le monde a envie de reprendre une vie normale. Est-ce que c'est discriminant? Mais absolument pas. Pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass sanitaire.
Le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, ce matin sur Europe 1. Vous êtes d'accord, c'est un sésame pour la liberté, ce pass sanitaire. On ne nous disait pas ça au départ, hein, Pascal Paugam.
Non, non, non. On se souvient de la polémique créée par la proposition du Modem, hein, sauf erreur de ma part, qui avait évoqué pour la première fois, au moment des fêtes, la possibilité de créer ce pass. La classe politique tout entière s'était dressée au nom des valeurs et de la liberté individuelle. Aujourd'hui, effectivement, le discours a changé, mais tout simplement parce que dans l'opinion publique, elle-même a changé. C'est un petit peu le même phénomène que pour la vaccination. On voit bien que le principe de réalité fait que les gens, chacun s'aperçoit que pour retrouver une vie, un semblant de vie normale, eh bien, ce pass sera bien utile pour un certain nombre de choses. Et le discours officiel consistant à dire que ce pass ne constituera pas un droit d'accès qui différencie les Français, ce sont les propos qu'a tenu Emmanuel Macron dans son interview. Ça, c'est du verbatim politique, mais la réalité, c'est que oui, évidemment, ça va différencier les Français entre ceux qui sont porteurs du virus et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est la réalité, il faut l'assumer. Et tant mieux si ça nous permet d'assister de nouveau à des concerts ou à des matchs de football.
Oui, sauf que... Cédrico, vous aimez le foot. Cédrico, il disait ce matin sur Europe 1, quand vous tendrez votre passe, la seule chose qui apparaîtra à l'écran, ce sera du vert ou du rouge. Ça veut dire que personne ne saura si vous avez été vacciné ou si vous avez un test PCR. Du coup, on ne peut pas mettre en avant l'atteinte vraiment aux libertés individuelles dans ce cas-là, Bruno Jeudy.
Oui, absolument. Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pascal Paugam. J'ajouterais que quand le débat est apparu en France et qu'il a d'abord été plutôt rejeté par la classe politique, déjà l'opinion, à mon avis, était déjà plus favorable. L'opinion a toujours couru devant cet aspect-là. Mmh. Mais surtout, on a été mis sous pression par nos voisins européens et notamment les pays destination touristique, la Grèce en tête, qui très vite, eux, ont mis en avant le pass sanitaire, qui est une aussi, je dirais pas une création, mais qui a été très vite testée par les Israéliens, qui l'ont aussi mis en œuvre. Donc du coup, dans cette affaire-là, l'interview du président de la République était plutôt une évolution très, 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 très nette et très favorable sur le pass sanitaire, même si lui, il a plutôt cherché à trouver le bon mot. Donc là, oui, on a le pouvoir. Je trouve qu'on est en train, là aussi, de trouver une solution qui corresponde un peu aux Français et à notre débat public, à nos respects sourcilleux des libertés, vous le disiez. Donc je crois qu'on est en train de trouver, on est en train d'avancer vers une solution qui va pouvoir agréer tout le monde. On ne peut pas s'en passer. La vérité, c'est qu'on peut, c'est très difficile de s'en passer. Il s'impose par les faits. Il se serait imposé aussi par le monde économique, par le monde touristique. Objectivement, c'est la pression extérieure, c'est le monde économique, touristique qui nous l'aurait imposé. Et donc, le pouvoir est en train de l'installer à sa façon.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci. Merci les grandes voix du vendredi. Vous souscrivez aussi, tout va bien. Dans un instant, toute l'info sur Europe 1 avec votre journal de 19h. À tout de suite.